Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés.
Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 45 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Marie-Claire Jazarevitch. Bonjour Marie-Claire.
Bonjour Nicolas.
Alors Marie-Claire, vous êtes doctorante à l'Université de Lyon 2 au sein du laboratoire LARA. Vous faites un sujet de thèse qui s'intitule « Le Saint-Siège et la Croatie sous Pie XII ». Vous êtes chargée de mission au consulat croate de Lyon et vos sujets de prédilection pour travailler, c'est bien sûr les Balkans, la Croatie et la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, tiens, aujourd'hui on va découvrir des séries dont on n'a pas parlé, en tout cas une série sur votre pays, en tout cas d'origine, la Croatie, sur lequel vous connaissez beaucoup de choses. Donc, quelle est cette série, Marie-Claire, que vous allez nous présenter?
Alors, la série que je vais vous présenter, elle s'intitule The Paper en anglais, mais le titre original, ça s'appelle Novine en croate. Donc, ça signifie journal. Voilà, littéralement parlant, ça signifie journal. Et c'est une série 100% croate qui aborde le monde du journalisme, le monde politique et tout ce qui gravite autour.
Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est une série croate qu'on peut trouver relativement facilement, en tout cas sur Netflix, en la tapant dans le moteur de recherche de la plateforme. Alors, dites-nous, de quoi parle cette série ?
Alors, cette série parle d'un journal qui s'appelle Novine, et qui en fait, c'est le dernier journal indépendant de Croatie. Donc, il est basé à Rijeka et, si vous voulez, il est racheté par un mania de la construction qui le rachète pour ses intérêts personnels. Et en fait, la grosse question, c'est est-ce qu'on privilégie le journalisme, donc être honnête, faire des articles vraiment avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de véracité, ou alors est-ce qu'on se conforte en fait à ce que veut le principal actionnaire du journal, donc le mania de la construction.
Alors justement, est-ce que vous pourriez peut-être maintenant rentrer dans les détails, nous dire comment fonctionne cette série, qui est d'ailleurs, je crois, une des premières séries du monde slave balkanique à se retrouver sur Netflix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire autour de tout ça ?
Oui, alors c'est vrai que pour les Croates, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. En fait, moi, c'est vrai que je cherchais des séries en croate. J'ai tapé le mot Croatie dans Netflix et il y a cette série qui est apparue. Et en fait, en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte que c'était la seule série slave et balkanique du catalogue Netflix. Et qu'en fait, c'était une série qui avait été tournée, produite en Croatie. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est qu'au milieu de toutes ces séries américaines, on tombe sur une série au cœur des Balkans qui nous fait découvrir un petit peu la Croatie et plus particulièrement la ville de Rijeka. Et c'est super intéressant parce qu'on voit que la production, voilà, elle n'a pas énormément de moyens, mais en fait, c'est vraiment une série authentique et la première, surtout, série slave et balkanique. Donc, ça juge un peu de sa qualité par rapport, voilà, on sait que Netflix a des critères quand même assez élevés. Donc, pour qu'elle se retrouve dans le catalogue Netflix, c'est quand même exceptionnel, ouais, pour une série croate.
Alors justement, hein, il y a, je crois, une vraie volonté de Netflix, comme on l'a vu dans l'épisode 42 avec Pierre Delnat sur l'Afrique du Sud, où Netflix commence à s'implanter, à diffuser des séries sud-africaines. Je crois que cette série The Paper, elle est un petit peu comme l'avait annoncé Pierre pour Shadow Kumalo pour l'Afrique. Elle a un petit peu pour but de la part de Netflix de pénétrer ce monde slave, ce monde des Balkans.
Oui, voilà, c'est vrai que je trouve qu'on trouve, voilà, de plus en plus une diversité chez Netflix, avec aussi, je pense au film turc qui avait eu un grand succès là récemment. Et c'est vrai que étonnamment, en France, il n'y a pas eu beaucoup de retentissement par rapport à la série The Paper, mais c'est plus en Amérique du Sud qu'il y a eu pas mal de critiques, voilà, d'articles sur cette série-là. Et c'est vraiment génial de voir que Netflix cherche un peu, voilà, à pénétrer ce monde des Balkans sans tomber non plus dans la caricature. Donc on verra là que dans la série The Paper, on a quand même des clichés assez balkaniques, notamment avec l'alcool, les cigarettes, la guerre, mais quand même on a un certain niveau de qualité qui est vraiment pas mal, oui.
Alors justement, hein, vous parliez de cette série qui se parle, Rijeka. Peut-être pourriez-vous présenter aux auditeurs quelle est cette ville qui a quand même été une ville capitale européenne de la culture.
Oui, bah c'est vraiment génial qu'on fasse cette émission à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'en fait, Rijeka, c'est pas la ville où on irait en vacances en Croatie, ça c'est clair et net, et c'est vrai que quand on parle de Rijeka, pour la plupart des gens, c'est pas forcément la ville la plus connue. On connaît Zagreb, la capitale, Split, la deuxième ville, qui est beaucoup plus touristique, et Rijeka qui arrive en troisième. Et en fait, Rijeka, c'est une ville vraiment portuaire, industrielle. Elle est perchée un petit peu dans les montagnes, mais elle a quand même un accès à la mer. Enfin, c'est vraiment, c'est assez spécial comme ville. Même l'atmosphère est très étrange. J'y suis allée cet été et c'est vrai que de me retrouver là dans la ville où a été tournée The Paper, ben, on ressent très facilement cette atmosphère. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'Union européenne a choisi cette ville-là en tant que capitale européenne de la culture, ce qui a permis un peu à Rijeka de se faire connaître. Et en fait, on se rend compte qu'elle a plein de facettes que le réalisateur a très bien su exploiter. Il dit d'ailleurs que Rijeka, il est très intéressant qu'une ville qui n'est pas très grande offre autant de diversité, et cela la rend fascinante. Et oui, parce que pour lui, en fait, il dit que si on devait filmer 10 saisons supplémentaires, on serait toujours pas en mesure de montrer tous les lieux que Rijeka a à offrir. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, parce qu'en étant allé à Rijeka cet été, on sent que Rijeka cherche à s'ouvrir, et c'est concordant en fait avec cette série qui a été tournée, parce que du coup, j'ai vu aussi récemment qu'une pub Mercedes avait été tournée à Rijeka. Alors que c'est une ville qu'on n'aurait pas du tout, j'aurais pas du tout parié sur Rijeka, voilà, pour tourner une pub pour une marque comme ça, quoi.
Donc justement, hein, quand peut-être rentrer maintenant dans la série elle-même, c'est quand même très intéressant, Marie-Claire. Vous allez peut-être, pour nous, j'allais dire, plonger dans l'ambiance, présenter cette scène d'ouverture de la série qui en dit long sur ce qui va se passer par la suite.
Oui, c'est vraiment, c'est vrai que quand j'ai regardé, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je pensais que c'était assez sombre. Mais la scène d'ouverture me l'a confirmé. En fait, on est vraiment en pleine nuit, sur un axe où il n'y a vraiment personne. On sent, voilà, ce silence assez pesant. Et puis là, on voit trois jeunes dans une voiture qui roulent, qui s'amusent. Et là, hop, un accident. Donc, un accident assez grave. L'autre chauffeur s'enfuit. Et un SDF, en fait, vient voir ces jeunes-là. Il assiste à cet accident-là et il s'enfuit dans la nuit. Et donc on prend conscience que voilà, ce sera la base de la série, mais on comprend pas trop pourquoi, parce qu'on sait pas forcément qui est le chauffeur qui est rentré dans les jeunes, mais voilà, on sent que il y a une atmosphère un peu pesante, quoi, parce que une scène d'ouverture avec un accident cette gravité là, c'est un peu compliqué. Donc la série s'ouvre vraiment comme ça en pleine nuit avec un accident meurtrier. Et on va voir par la suite, en fait, oui, cet accident, il aura vraiment une importance particulière, oui.
Alors oui, justement, hein, vous l'avez dit, hein, on plonge ensuite dans la rédaction du journal Noviné, hein, qui est un journal fictif qui n'existe pas réellement en Croatie. Alors justement, hein, à partir de là, il y a des histoires, on va dire, de vie privée des journalistes, mais qui s'entremêlent autour d'histoires plus générales autour de la Croatie. Est-ce que vous pourriez présenter comme ça un petit peu l'atmosphère générale de la série ?
Oui, alors c'est vrai que j'avais réfléchi à cette question-là, et pour être honnête, c'est assez complexe, parce qu'il y a énormément d'histoires qui s'entremêlent à différents niveaux. Donc on entre dans la vie privée des journalistes, donc voilà, on comprend chacun leurs problèmes respectifs. La plupart des scènes se passent quand même au sein de la rédaction du journal Noviné. Et là, on voit quand même que la série tourne particulièrement autour du monde journalistique. Mais voilà, on va souvent chez les personnages, on comprend plus ou moins leurs liens entre eux. Des fois, on fait des flashbacks dans le passé. Donc, c'est assez compliqué, en fait, d'expliquer vraiment ce qui se passe dans la série. Mais c'est vraiment souvent, la question revient de eh ben, est-ce que dans cet article-là, on peut parler de ça? Est-ce que dans un autre article, on peut parler de ça. Le journal a été racheté donc par ce mania de la construction. On sent bien que c'est lui qui dirige, mais on sent une certaine réserve des journalistes, voilà, à l'attaquer sur certaines choses. Donc c'est vraiment complexe comme série. Et c'est vrai que c'est le réalisateur qui disait « Après tout, The Paper n'est pas une série facile à regarder. Vous pourriez aller aux toilettes et perdre le fil d'une histoire qui est essentielle pour comprendre toute la série. » Et quand j'ai lu ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. En plus, moi, c'est vrai que j'aime bien faire deux choses en même temps. Et là, avec The Paper, on ne peut pas. Enfin, faut vraiment, en plus, c'est sous-titré. Dès qu'on décroche un petit peu, on loupe pas mal de choses parce que tout est lié. Vraiment, mais la première saison se concentre quand même uniquement sur la vie de la rédaction, sur le monde journalistique et sur le monde des affaires. Donc, parce que vu que le mania de la construction a racheté le journal, on comprend que lui, il passe certains accords avec le maire de la ville de Rijeka et en fait, tout est lié. Il y a la police aussi qui est corrompue, donc c'est un vrai micmac, je dirais.
Alors oui, justement, peut-être que vous pourriez maintenant nous présenter la trame de cette première saison, parce que je pense que ça sera important pour les auditeurs de bien comprendre cela, pour ensuite, par la suite, qu'on puisse vraiment s'intéresser aux différentes thématiques qui présentent la Croatie actuelle.
Oui, alors en fait, voilà, donc il y a le mania de la construction, Mario Cardum, qui a acheté le journal, parce que on comprend plus ou moins que il faut qu'il l'achète pour une raison ou pour une autre. Et on comprend après, je ne veux pas dévoiler toute la série, mais on comprend que c'est lié à l'accident. Donc on sait que voilà, c'est ce point-là qui est sous-jacent. Et en fait, il y a eu une journaliste assez réputée en Croatie, qui est d'origine serbe, et ça aura un petit peu son importance après, qui, elle, veut absolument chercher des informations sur Mario Cardum, le mania de la construction. Et en fait, elle découvre qu'il est vraiment pas net, qu'il manigance un peu des choses avec le maire de la ville, donc il s'appelle Ludvík Tomasevič. On comprend aussi qu'ils ont une société en commun qui n'est vraiment pas clair. Et Diana Mitrovic, la journaliste, elle veut éclaircir tout ça, mais vu qu'elle est maintenant employée par Mario Cardum, on comprend bien le dilemme de est-ce que je risque mon poste en cherchant la vérité, ou est-ce que je me conforme en fait à ce que veut Mario Cardum, donc un journalisme assez subjectif, voilà, qui n'aborde pas certains sujets. Donc c'est vraiment ça la trame. Et puis on comprend après que l'accident, il y a eu quand même 3 morts et ça a été très 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 rapidement classé. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc ça, c'est un autre journaliste de Nouvelle-Guinée qui s'y intéresse. Et il va demander des infos à la police, à des hauts responsables du ministère, et on lui fait comprendre que non, il n'y a rien à voir, donc ce qui éveille encore plus sa curiosité. Et à la fin de la saison, on comprend que tout est lié. Et la question se pose vraiment, est-ce que le travail journalistique doit-il passer avant la vie personnelle de la personne? Et c'est vraiment ça qui ressort, hein. C'est vraiment ce dilemme-là. Avec voilà le maire, la police et Mario Cardum. Donc 3 mondes assez liés et par-dessus. Et là, c'est très intéressant à lier avec la Croatie, c'est qu'il y a aussi l'Église catholique qui s'en mêle, qui protège plus ou moins voilà le maire, Mario Cardum. Donc c'est plein de choses. C'est un peu voilà les autorités contre le dernier journal indépendant de Croatie. On voit que voilà le journal s'oppose à plein de réticences et plein d'obstacles, pas forcément légaux.
Et justement, Marie-Claire, la saison 2 évolue peut-être dans un climat, j'allais dire, différent.
Oui, complètement. Oui, complètement. Je veux pas révéler non plus plein de choses, mais en fait, oui, la deuxième saison change quand même de monde, puisque là, en fait, on suit du premier épisode au dernier la campagne présidentielle, donc à la fois des deux candidats. Le candidat Marco, pardon, Tomasevic, qui lui est maire de Rijeka. Donc, on fait sa connaissance dans la première saison et en fait, on apprend qu'il est candidat à la présidentielle dans la deuxième saison face à une femme qui, elle, représente le Parti social-démocrate, donc le parti un peu plus de gauche. Et en fait, on suit vraiment cette campagne-là avec les coups bas qui se font, l'influence de l'Église catholique dans cette campagne-là, de l'argent, et on retrouve un peu plus aussi la guerre qui est en fond quand même, parce que enfin vous verrez si vous regardez la série, mais c'est vrai que on fait souvent appel à des tireurs d'élite, à des hommes voilà chargés d'aller faire peur à certaines personnes. Donc c'est vraiment beaucoup de manigances, beaucoup de coups bas pour à la fin savoir qui gagne les élections. Mais en fait, on se rend compte que les deux candidats sont absolument horribles. Et c'est un peu, on sent la critique du réalisateur sur le monde politique croate actuel. On sent un petit parallèle. Il le fait jamais vraiment concrètement, mais on retrouve quand même pas mal d'éléments de la vie politique croate actuelle. Ouais.
Alors oui, justement, hein, ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est qu'il n'y a pas de véritable héros. On peut dire, on peut voir que toute la rédaction des journalistes joue un rôle important qu'on voit revenir dans plusieurs épisodes. Alors il y a quand même, je pense, une journaliste qui semble relier un petit peu toutes les intrigues.
Oui. Alors ça aussi, ça montre la complexité un peu de cette série-là, c'est qu'il y a pas de personnage principal. Enfin, je pense que ce serait intéressant de calculer le temps d'écran de chacun et ce serait vraiment très équilibré. Mais quand même, voilà, il y a Dijana Mitrović qui est une actrice célèbre en Croatie et dans les Balkans. Donc quand même, on lui réserve, je pense, un rôle un peu plus prépondérant dans la série, qui elle lie à la fois par sa vie personnelle. Elle lit le monde des affaires parce qu'en fait, son amant, c'est l'adjoint au maire de Rijeka. Mais cet amant-là, en fait, il est en couple avec sa sœur. Enfin, c'est plein de petites histoires comme ça. Et c'est elle vraiment qui est désireuse de passer outre la corruption, de passer outre les obstacles qu'on lui met pour garder voilà, ce journalisme indépendant, quitte à se mettre en danger parfois aussi. Et en fait, elle se retrouve, voilà, au fil de ses recherches, elle tombe sur des choses vraiment importantes. Et on verra qu'à la fin, les deux candidats se retrouvent un peu suspendus aux décisions journalistiques de ce personnage-là.
Alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant en documentant sur la série, en regardant un petit peu la série, c'est qu'on opérait à travers ça, et moi c'est un pays que je ne connais pas, une vraie plongée dans les Balkans, hein, avec une vraie découverte du pays, avec une série qui est aussi, et ça c'est intéressant de voir que Netflix se tourne vers ce côté-là aussi, une série qui est tournée, on va dire, localement en Croatie, comme on a pu le voir d'ailleurs dans l'épisode 43 avec Charles Barka sur Derry Girls, qui était tourné dans la ville de Derry. Là on a, vous l'avez dit, une vraie plongée dans les Balkans et une plongée réelle et réaliste, pas en studio.
Oui, c'est ça moi en fait qui m'a vraiment attrapée, c'est que j'adore la Croatie, vraiment pour moi à chaque fois c'est un plaisir de travailler dessus et voilà d'entendre que ce soit des reportages, lire des articles, et là en regardant cette série, ça m'a rappelé vraiment mes vacances, on retrouve vraiment les marques locales, la langue locale aussi, et même Rijeka en fait c'est intéressant parce que sa situation géographique elle est entre deux régions de la Croatie qui ont des dialectes différents. Et Rijeka se situe pas loin d'où habite ma famille, et ma famille parle un dialecte l'istrien, de la région de l'Istrie. Et en fait, je retrouvais dans les dialogues des expressions vraiment istriennes. Et donc, je trouve ça encore plus. Enfin, ça montre vraiment l'indépendance de la série, voilà, qui a pris le parti de faire quelque chose de vraiment authentique. Même les personnages, tous les acteurs sont croates ou viennent des Balkans. Et puis tout est tourné en Croatie. Je pense qu'il y a aucune scène de studio. Donc voilà, on a beaucoup de plans sur le port de Rijeka, mais aussi dans des petits restaurants, des konobas. La musique aussi, c'est ça qui m'a marqué. C'est qu'à la fin de chaque épisode, il y a souvent une musique. Et c'était très 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 souvent des musiques croates ou voilà, des musiques serbes, de chanteurs assez connus sur place. Et ça, c'est vraiment intéressant et encore plus voilà, gratifiant pour la Croatie. Et on plonge vraiment, moi ce qui m'a marqué en premier en regardant la série, c'est la quantité d'alcool que buvaient les journalistes de la rédaction et le nombre de cigarettes qu'ils fumaient. Alors ça, c'est quelque chose, alors qu'on sait que voilà, maintenant c'est un peu plus, je ne sais pas s'il y a des restrictions vraiment officielles, mais c'est vrai qu'on évite de montrer voilà, des personnages qui fument beaucoup. Et là, en fait, à chaque fois qu'ils finissent le boulot, voilà, ils se retrouvent au bar du coin, donc ils payent en kuna, la monnaie locale, et ils fument et ils boivent énormément, ils fument dans le bar. Parce que ça aussi, c'est assez drôle, c'est que même si la législation interdit de fumer dans les bars, en Croatie, c'est très 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 fréquent de pouvoir fumer dans les bars sans qu'on soit inquiété ou quoi que ce soit. C'est vraiment la culture croate. Pareil, le prix des cigarettes est vraiment pas cher, donc on comprend pourquoi ils fument tant. Et puis, il y a tout voilà, ce monde, il y a la place de l'Église catholique, moi, qui m'a aussi beaucoup marquée. Et j'attendais, en fait, de voir quelle image le réalisateur donnait de l'Église catholique. Et on se rend compte qu'elle a une mauvaise image. Hein. Moi, c'est vrai que l'Église catholique, enfin, je pense qu'on y viendra après dans l'enregistrement, mais ça, c'est très intéressant à aborder.
Alors oui, justement, hein, vous me tendez la perche pour la suite, parce que c'est vrai que je trouve que The Paper est vraiment une série qui est loin d'être une carte postale sur la Croatie. On voit de belles choses, on voit de beaux paysages, mais surtout une série très noire, une série qui présente les côtés parfois très sombres de la Croatie actuelle. Il y a de nombreux, on pourrait dire, sujets noirs abordés. Alors est-ce que vous pourriez peut-être rentrer dans le détail ici et présenter quels sont les grandes thématiques que l'on peut retrouver dans la série?
Alors, oui, c'est vrai que vous verrez, il fait souvent gris, il fait très rarement soleil dans la série. Ça aussi, c'est un élément voilà, à prendre en compte parce qu'on peut associer la Croatie au tourisme et à des plages voilà, avec de l'eau bleue turquoise. Et là, jamais. Vraiment, dans toute la série, on n'a pas des plans comme ça. On est tout le temps, je trouve, dans la profondeur. Voilà, il n'y a jamais trop de légèreté, que ce soit dans la vie personnelle des personnages, dans les intrigues, c'est vraiment assez sombre. Et du coup, en lien avec la Croatie et les Balkans, on retrouve des sujets, voilà, comme vous dites, noirs. Donc, on retrouve le rôle post-communiste, en fait, joué par les agents du renseignement et les ex-policiers titistes. En fait, il y a vraiment cette opposition entre le yougoslavisme et le nationalisme croate. C'est vraiment ça le clivage actuellement en Croatie. On va avoir les yougo-nostalgiques qui sont nostalgiques un peu de cette période yougoslave avec Tito. Et il y a les croates nationalistes qui, eux, se sont battus pour libérer leur territoire face aux Serbes, qui se sont battus pour leur indépendance. Et du coup, ils ont du mal à supporter... ils ont du mal à supporter la yougo-nostalgie. Et très récemment, là, je vous parle de ça, j'ai vu ça hier, à Rijeka, dans le cadre de la capitale européenne de la culture, ils ont installé une immense étoile rouge sur un immeuble qui domine Rijeka. Et l'étoile rouge, voilà, c'est le symbole de la Yougoslavie parce qu'elle était sur le drapeau yougoslave. Et ça crée des polémiques énormes parce que certains saluent l'installation de cette étoile et d'autres, au contraire, s'insurgent parce que pour eux, c'est le retour de la Yougoslavie. Enfin, et voilà, et ça, c'est arrivé encore il y a une semaine. Ils ont mis en place cette étoile-là. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi comme sujet noir? On a cette montée en puissance des groupes d'extrême droite nationalistes. Ça, c'est vrai qu'on l'a retrouvé, en fait, on a eu une présidente qui s'appelait Kolinda Grabar-Kitarovic, qu'on a vu lors de la finale de la Coupe du Monde contre la France. Voilà, une très belle femme hein, qui présente très très bien. Et en fait, c'est vrai qu'elle mène une politique assez nationaliste qui est largement décriée par une partie de la population croate. Et en fait, on retrouve ça un peu chez le maire de Rijeka, Marko Tomasevic, qui après est candidat aux élections. Et en fait, lui, il se base vraiment sur ce nationalisme-là. On voit énormément de drapeaux de la Croatie, on entend très souvent l'hymne croate. Il tient des discours, voilà, avec un vocabulaire, un champ lexical de la patrie, de la guerre, du combat. Lui, concrètement, il veut, dans son programme, il veut défendre la Croatie face aux ennemis extérieurs. Et en fait, quand on regarde la situation de la Croatie actuellement, la Croatie n'a pas d'ennemis déclarés, ça c'est clair et net. Donc, il joue un peu sur ce côté-là. Et on retrouve, du coup, on peut faire un parallèle entre Tomasevic et la présidente qu'on a eue, là, Kolinda Grabar-Kitarovic. Donc, il y a ce nationalisme qui est très sous-jacent, qu'on ressent beaucoup avec ce candidat-là. Comme sujet noir aussi, on a la mauvaise conduite financière et sexuelle des personnalités religieuses, donc de l'Église catholique. Ça, c'est clair et net qu'on a un gros souci de ce côté-là. On voit l'évêque qui joue vraiment de son influence et qui joue de son titre d'évêque pour à la fois s'immiscer dans le monde journalistique, dans le monde des affaires, mais surtout dans le monde politique. Et carrément, dans la deuxième saison, il se fait payer pour prêcher pour un candidat. Donc ça, c'est peut-être exagéré, mais en Croatie, ça j'en parlerai sûrement plus tard, il y a une importance énorme de l'Église catholique dans la vie croate de tous les jours, hein. Ça c'est clair et net. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on retrouve surtout la corruption des politiques. Donc l'impunité dont bénéficient les politiciens, les oligarques, leurs familles. Voilà, ça, c'est vraiment un sujet qui pose problème. Ça a posé problème aussi pour l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. La justice n'était pas assez indépendante. L'administration était vraiment corrompue et il a fallu qu'ils travaillent sur ces chapitres-là pour pouvoir intégrer l'Union européenne. Et on retrouve ça dans la série, dès le premier épisode de la saison 1, où on se rend compte que le maire attribue des chantiers à Mario Kardoum. C'est très, très, très courant. Dans la deuxième saison, pareil avec la campagne présidentielle. On voit vraiment que on paye pour obtenir des voix, qu'on paye pour avoir certains soutiens. Et ça décrit, ça dépeint un tableau assez noir de la Croatie, mais quand même réaliste. Ça, faut l'avouer, hein, oui.
Et donc, Marie-Claire, ce qui est très intéressant aussi, de tout ce que vous venez de dire là, c'est qu'il y a un tableau réaliste avec peut-être ce qui peut nous paraître pour nous en France, pays où justement il y a eu une certaine déprise de la religion depuis le 19e et 20e siècle. Hein, vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, c'est la place véritablement hyper importante de l'Église catholique en Croatie. Et ça, on le voit bien dans la série.
Ah oui, complètement, oui. C'est vrai qu'en fait, la Croatie, elle est considérée comme dernier rempart de la chrétienté. Et elle a toujours été très, très liée à Rome, au Vatican. Donc voilà, elle donne vraiment une place prépondérante au pape. Et du coup, ça se retrouve, moi, j'ai l'habitude de dire que la Croatie, c'est un peu la France il y a 50 ans. C'est une société qui est très soudée, qui est très très solidaire et qui est surtout très croyante. Donc c'est des pratiques, par exemple, pour aller communier, il faut s'être confessé avant. Souvent dans les églises, les hommes et les femmes sont séparés. Ça, je parle dans les campagnes parce que on peut considérer la Croatie, on peut la diviser en deux. Il y a vraiment Zagreb, la capitale, avec une population assez jeune et vraiment ouverte sur l'Union européenne. Et puis il y a des régions beaucoup plus traditionnalistes où là l'église a vraiment une place prépondérante. Et en fait, ça, on le voit vraiment, et c'est lié à mon sujet de thèse, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Croatie a été envahie par les nazis, par le Troisième Reich. Et en fait, c'est devenu un état fantoche du Troisième Reich, avec à sa tête un militaire, Ante Pavic, qui lui, il s'en est jamais caché, son but, c'était de faire de la Croatie une Croatie pure et catholique. Et en fait, on retrouve bien, voilà, la place que l'Église a toujours un peu eue en Croatie. Mais là, vraiment, c'était lié au pouvoir, vraiment, avec notamment le cardinal Stepinac, qui est assez connu dans l'histoire des Balkans, qu'on a accusé de collaborer au début, et en fait, on s'est rendu compte que pas forcément. Mais ça, c'est un sujet très très sensible. Mais voilà, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, on retrouve voilà ce pouvoir lié entre le pouvoir politique et le pouvoir catholique. Et puis même quand je discute avec mes amis en Croatie, le prêtre a vraiment une place prépondérante dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est vraiment le denier de l'Église est extrêmement important en Croatie, la place de l'Église aussi. C'est vraiment impressionnant. Et là, le réalisateur a pris parti de montrer quand même l'importance de l'Église en Croatie, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont tournées à l'évêché, mais aussi dans les églises, donc à la sortie de la messe. Tout ça, c'est vraiment assez prépondérant. Mais il montre surtout le côté noir, voilà, de l'abus de pouvoir, les abus sexuels, pas forcément. On comprend plus ou moins que l'évêque, voilà, il n'est pas très clair sur certains points. Voilà, il y a un scandale qui éclate au cours de la première saison. Il me semble que c'est sur les derniers épisodes. Il y a certains scandales qui éclatent avec l'évêque, mais voilà, il lui donne une place de, il abuse de son pouvoir, quoi. Et ça, on le retrouve un petit peu en Croatie, même actuellement, oui.
Alors justement, Marie-Claire, hein, dans la Croatie actuelle, on est maintenant un peu moins d'une vingtaine d'années après la guerre, les différentes guerres qui ont ensanglanté, qui ont embrasé véritablement l'ex-Yougoslavie. Et ça, on le voit bien dans la série, qu'il y a une vraie trace indélébile, hein, encore aujourd'hui dans la population.
Oui, complètement. Oui. Déjà au niveau de l'architecture, enfin ça dépend des régions. Rijeka un peu moins parce qu'elle a été un peu moins touchée par la guerre en 90. Mais vous baladez en Croatie, dans la région de Zadar, par exemple, il y a beaucoup de bâtiments qui sont abîmés par. Voilà, on voit les impacts de balles. Il y a beaucoup de terrains minés aussi. Donc, c'est vrai que la guerre est présente, mais honnêtement, quand j'ai regardé la série, je pensais qu'on allait beaucoup plus avoir affaire à la guerre, qu'on allait beaucoup plus en parler, et c'est très bien fait par le réalisateur. Il dit à un moment, il fait dire à mon personnage, ici, tout a toujours un rapport avec la guerre. Et en fait, c'est vrai, quand on a cette phrase en tête, on comprend après que pas mal de choses sont liées à la guerre, mais c'est vraiment sous-jacent, c'est pas, on se le prend pas vraiment en pleine figure, voilà, c'est vraiment des personnages, voilà, on comprend qu'ils ont servi dans l'armée croate, qu'il y a une certaine haine pour les Serbes, il y en a un là, donc le chef de la guerre, le chef, pardon, de la police, Jolic, lui, c'est vraiment un ancien combattant croato-bosniaque et qui devient chef de la police. Donc, on imagine qu'il ne sera pas forcément impartial. On retrouve aussi voilà, ce lien aussi avec les Serbes, parce que le Dijana la Mitrović, la journaliste principale, elle est serbe et son père est serbe. Et à un moment, il remonte dans le train pour retourner en Serbie et il demande pardon. Et c'est vrai que ça, ce pardon, dans plusieurs articles, j'ai lu que on se demandait pourquoi il demandait pardon. Et vous voyez que c'est, on sent la guerre, mais voilà, ça soulève plus des questions, plus que des affirmations. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que la Croatie, souvent, on l'associe à la guerre, à la Yougoslavie, aux Balkans. Et là, comment dire, on prend un autre parti de ne pas montrer que ça. On en est conscient, la guerre est là, on peut pas le renier, mais voilà, c'est pas que ça.
Alors oui, justement, c'est vrai, Marie-Claire, hein, The Paper, ce n'est pas que ça, vous avez raison de le dire, même si c'est une série qui est réaliste, qui est noire, qui est tournée dans une certaine atmosphère autour de la vie croate, justement, on voit quand même à travers tout ça qu'il y a une vraie volonté aussi de marquer certains points positifs vis-à-vis directement de la population croate, mais aussi peut-être de montrer une image réaliste envers l'étranger.
Oui, voilà. Et puis ça rejoint, vous faites bien d'en parler parce que c'est vrai que le journalisme en Croatie, ça a été un peu compliqué. C'est vrai que la Croatie, pour vous dire, elle est classée 59e, il me semble, de tête. 59e, voilà, sur 180 pays, selon le classement Reporters sans frontières. Donc c'est pas exceptionnel, voilà, pour un pays membre de l'Union européenne. On peut s'attendre à une place plus haute, mais c'est vrai que la télévision nationale est souvent victime d'ingérence de la part du gouvernement. Ça, c'était surtout sous Kolinda Grabar-Kitarović, la présidente un peu nationaliste, qui n'hésitait pas, voilà, à diffuser des programmes en lien avec la guerre, des programmes assez patriotiques, des cérémonies militaires. C'est elle qui a organisé le premier défilé militaire. Voilà, donc on retrouve un peu cette ingérence-là sur la télé publique, mais comme vous dites, il y a des points positifs, c'est que cette série, elle a pu être produite, elle a pu être tournée et surtout, elle a pu être diffusée sur la télé nationale. Donc, on peut espérer, voilà, que ça ait éveillé un peu la curiosité et puis que ça a ouvert l'esprit de certains Croates qui peuvent, voilà, être partisans et puis être d'accord, voilà, avec cette ingérence, avec ce journalisme plus ou moins subjectif. C'est vrai que là, récemment, il y a un journaliste d'un site qui s'appelle index.hr, qui est un site de journalistes croates assez indépendant. Il a tweeté ACAB sur son Twitter et il a été arrêté pour insulte à la police. Donc ça, c'est vrai que on peut le condamner. Mais voilà, on sent cette volonté de certains réalisateurs croates, de certains producteurs, de montrer la réalité croate aux Croates sans être censurés. Ça, c'est très important. Et puis, on est vraiment content quand même qu'un journalisme indépendant demeure malgré tout. Parce que c'est vrai que la Croatie, ça reste un pays quand même assez fragile. Qui est assez dépendant, voilà, des pouvoirs politiques. Et c'est vrai que si on arrive à avoir un monde de la culture comme ça qui s'émancipe, qui devient plus indépendant, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à la Croatie.
Bien, Marie-Claire, on vous remercie pour cette présentation de la série croate The Paper, donc Noviné en croate. On espère que ça leur a donné envie aussi, hein, c'est le but du podcast, aux auditeurs de regarder ces séries qui montrent autre chose et qui nous font découvrir, c'est vrai, un pays qui n'est pas si loin que ça, hein, de Paris,
Et oui.
en heure de vol, qui aussi vont montrer un pays de l'Union européenne de façon différente. Vous avez raison de le rappeler, que ce n'est pas parce qu'on est au sein de l'Union européenne que, on est forcément un pays qui respecte les droits de l'homme, en tout cas autant qu'on l'espérerait. Et c'est vrai que là, moi personnellement, j'ai découvert pas mal de choses. Et c'est vrai que du coup, je vais aller voir la totalité des deux saisons parce que ça montre des choses différentes. Donc, on rappelle aussi, Marie-Claire, pour tous les auditeurs, que vous avez fourni une bibliographie, sitographie, qui vous permettra d'aller approfondir cette
Oui.
émission, d'aller regarder la série autrement. Et ça, c'est très intéressant. Et puis, comme d'habitude, donc, vous aurez tout ça, on le retrouve sur notre site internet histoireenserie.com et aussi vous avez comme à chaque fois le résumé de toutes les émissions sur notre partenaire nonfiction.fr. Merci beaucoup Marie-Claire et puis à bientôt j'espère peut-être pourquoi pas pour une nouvelle série croate. Merci
Avec
beaucoup.
plaisir, merci
Au
à
revoir.
vous. Au revoir.
Retrouvez-nous sur Twitter @histoireensérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.